Bonjour et bienvenue dans Sourire à soi, le podcast où l'on parle de développement intérieur, de sagesse ancestrale, de yoga, mais aussi de design humain ou de spiritualité. J'essaye de le faire toujours avec simplicité, profondeur et une touche d'humanité. Je suis Céline, professeure de yoga, accompagnante en transformation intérieure, passionnée par l'être humain et les mystères de la vie. Ici, j'aime te partager des clés, des contes, des réflexions que j'ai eues pour t'aider à te reconnecter à ce que tu es profondément et surtout à essayer d'avancer avec confiance, même quand la vie devient floue. J'avais donc envie aujourd'hui de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et que j'utilise au final tous les jours dans ma pratique de yoga, dans mon enseignement et même dans mes observations de la vie d'une manière générale. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de ces centres d'énergie, en fait, de ce mot qu'on entend un peu partout et qui a été un peu galvaudé, qui a un peu perdu de son sens, qui est le mot chakra. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un chakra? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, les premières références au chakra, en fait, ils remontent à plus de 2000 ans. Ils apparaissent en premier dans les textes qu'on appelle les Upanishads, qui sont vraiment de très vieux textes anciens indiens. On parlait à l'époque d'eux un peu comme des canaux d'énergie, on parlait des nadis, et on parlait de ces centres le long de la colonne vertébrale. Si vous revenez vraiment dans l'anatomie énergétique du corps, on dit qu'il y a au centre du corps, un peu comme la colonne vertébrale, on appelle ça Sushumna Nadi. Puis ensuite, vous avez Ida et Pingala, qui sont deux centres, deux autres canaux énergétiques qui partent du bassin et qui remontent un peu comme deux serpents. Hein. On a cette image de la Kundalini qui se croise, qui se croise, qui se croise jusqu'en haut de la tête. Si vous avez déjà vu le caducée des pharmaciens, ça fait penser à ça. Et on dit qu'à chaque fois que Ida et Pingala se croisent sur la colonne vertébrale, cela forme un chakra. Donc il y a sept chakras principaux, mais il y en a d'autres dans le corps. Mais bon, c'est les sept-là dont on parle le plus et qui peuvent nous donner des indications vraiment dans notre pratique de yoga ou dans notre quotidien sur ce qui peut être bloqué dans notre corps. Ce mot chakra, ça veut dire roue, ça veut dire disque, ou il y en a qui le comparent aussi un peu un vortex, une espèce de spirale constamment en mouvement, un point d'énergie en rotation, peut-être dans un sens, peut-être dans l'autre, s'il tourne bien ou mal. Il n'y a pas vraiment de référence là-dessus. Il y a des gens qui ont beaucoup de facilité à s'approcher des corps et à ressentir ces chakras. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant à observer, à essayer de ressentir chez soi. Peut-être juste on peut se poser des questions, de savoir comment est mon chakra racine en ce moment et de méditer là-dessus. Ça peut être vraiment des choses faciles, mais on peut vraiment les considérer parfois un peu comme des portails d'éveil spirituel. Ils sont chacun reliés, vous allez le voir, et on ne va pas rentrer dans tous les détails, sinon l'épisode durerait 2h30, mais ils sont tous reliés à des mantras, à un élément, des fois à des formes géométriques, à des déités, et aussi à des symboles archétypaux profonds, et on le verra surtout, chaque chakra est relatif aussi à des zones anatomiques de notre corps. Et du coup, à certains blocages, mais quoi qu'il en soit, on dit que ces chakras, pour les introduire vraiment tous ensemble, c'est eux qui équilibrent notre énergie à l'intérieur de nous et qui fait que l'énergie, elle soit en mouvement et qu'elle circule bien ou qu'au contraire, eh bien, elle soit limitée et que cela nous freine peut-être dans notre vie. Donc, je vous invite aujourd'hui vraiment à venir plonger avec moi dans ce voyage des sept roues de la conscience. Et non pas, je ne vais pas vous dire des vérités immuables, je vais vous dire certaines vérités immuables. Mon mari, il me dit que je pourrais faire une thèse sur les chakras tellement je les ai étudiés. C'est pas mon élan aujourd'hui de vous balancer toutes les connaissances que j'ai pu trouver, etc. C'est plus une invitation, en fait, à venir les découvrir, les ressentir, les écouter, peut-être pour ressentir votre corps juste différemment. Je vous donnerai, si vous voulez, vous pouvez m'écrire, je pourrais vous donner quelques références comme ça, de livres vraiment qui m'ont parlé. Mais je pense qu'après, c'est surtout de l'expérimentation. Donc, on va commencer par le premier chakra. Le premier chakra, donc, il est situé vraiment, on dit, hein, entre le vagin et l'anus. C'est vraiment un point qui est c'est le seul, en fait, qui oriente son énergie vers le bas, vers la terre. Donc, ce chakra, racine, on entend d'ailleurs beaucoup parler de l'importance de l'ancrage, et c'est lui qui régule ça. En sanskrit, il s'appelle Mooladhara. Qu'est-ce que ça veut dire Mooladhara? Moola, ça veut dire racine, justement, c'est l'origine, c'est la base, et Adhara, c'est le support, la fondation, le pilier. Donc on pourrait dire un peu que c'est le support de la racine, le socle vraiment de ton incarnation. Je vous donne juste quelques éléments clés et après vraiment on va dans cette lecture énergétique qui est beaucoup plus intéressante pour moi et que j'adore apporter à mes élèves en cours. Donc ce chakra, vous le verrez souvent représenté en rouge, comme le rouge sang un peu de la vie. Il est associé à la terre et il est associé aussi à l'odorat. Il est relié, en fait, ben, comme vous pouvez le situer, à toutes vos jambes, donc les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, mais aussi tout le bassin. Vraiment, le bassin et surtout les hanches. Le bassin, ce sera un peu plus le second chakra. Mais vraiment, les hanches. Donc, tout de suite, je vois quoi? Je vois cette chose d'avancer dans la vie, de faire des pas. Ça va être vraiment ma porte d'entrée de l'âme dans le corps physique. C'est le chakra de la survie, de l'ancrage, de la confiance en la vie, de chaque pas que je fais, il est solide. Et aussi, on peut le relier à certains organes, vraiment, au niveau du côlon, du rectum. Peut-être comment aussi j'excrète mes selles. Est-ce que c'est facile pour moi? Est-ce que c'est difficile? Ça en fait partie aussi. Les blocages que l'on peut voir dans ce chakra sont reliés à la déconnexion au corps, à un déracinement, à une sensation aussi peut-être de manquer. C'est vraiment, je l'associe souvent, hein, je parle à mes élèves de comment a été mon ancrage dans ma vie, comment sont mes racines, comment je suis reliée à ma famille, est-ce que ça a été stable dans mon enfance, parce que il est aussi relié à l'âge de développement de la conception à nos 7 ans. Donc, comment ça s'est passé, toute cette première partie de ma vie? Est-ce que j'étais attendue? Est-ce que ma famille a été heureuse de me voir arriver? Est-ce que ça a été stable dans ma vie, de ces 0 à ces 7 ans? On relie ça aussi beaucoup, hein, beaucoup à la peur matérielle. Est-ce que justement j'ai eu, pareil, cette sensation de sécurité matérielle pendant ces années ou pas? Si énergétiquement il y a une surcharge ici d'énergie, il peut y avoir de la rigidité, un matérialisme excessif, hein, en excès, hein, et une peur viscérale vraiment de l'inconnu. Donc c'est les gens qui sont vraiment rattachés, vraiment les grands terriens, les gens qui vont regarder leur compte en banque tous les jours, les gens qui vont avoir du mal peut-être à prêter de l'argent ou à porter des jugements là-dessus sur comment vous gérez votre rapport à l'argent. Et si au contraire, vous êtes un peu en vide de l'énergie de ce chakra, vous allez peut-être carrément fuir dans votre mental, dans la consommation, la surconsommation, dans une spiritualité complètement éthérée. Bah, vous n'avez plus du tout les pieds sur terre, hein, faut dire ce qui est. Et vu que tout ça est vraiment fondé sur vos premiers attachements, à vos parents, à la nourriture, au foyer, ça peut amener certaines blessures vraiment d'insécurité, d'abandon, d'instabilité. Il est intéressant aussi de savoir comment vous êtes né dans ce chakra et encore aussi relié au deuxième chakra de Svadhisthana, votre naissance, comment vous avez été porté, etc. On le verra un peu plus sur celui d'après. Je peux avoir des croyances limitantes dans ce chakra qui peuvent être reliées à « je dois me battre pour survivre », « je n'ai peut-être pas été désirée », « je dois prouver le droit que j'ai d'être ici ». Et si je vais un petit peu plus loin, c'est intéressant en fait de se poser la question de savoir qu'est-ce qui me fait sentir en sécurité aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait perdre pied en fait? Aussi tout mon rapport au corps. Est-ce que je me sens habitant ou locataire de mon corps? Est-ce que je suis vraiment dans mon corps? Est-ce que j'ai des pratiques qui me permettent de le ressentir? Et puis vraiment après, je peux aller un peu plus loin sur chacune des zones de mon corps. Quand une cheville me lâche, quand un genou me lâche, quand mes jambes, je ne les sens pas, peut-être elles sont pleines d'eau, vous voyez, peut-être elles sont, j'ai la jambe poteau qui est lourde, la difficulté à avancer. Donc c'est intéressant de savoir si je marche d'un pas léger, sûr de moi dans la vie, ou est-ce que parfois j'ai des choses qui me freinent et voilà, je vais peut-être me blesser une partie de mes jambes et c'est peut-être juste que je suis pas sur mon chemin en fait. C'est intéressant aussi sur le côté transgénérationnel et karmique, hein, de savoir ce que vous avez entendu de votre famille. Si vous avez entendu depuis tout petit, la vie est dure, c'est comme ça, t'as pas le choix, faut bosser pour survivre, ne fais confiance à personne. C'est encore plus difficile, pareil, d'avancer dans la vie et d'être sûr des pas que l'on fait. Le deuxième chakra, qui est pour moi quand même assez relié, hein, parce qu'on arrive sur Svadhisthana, sur le chakra sacré. Et ce chakra, il est dans le bassin, en fait. Svadhisthana, son nom sanskrit, signifie la demeure du soi, là où la nature profonde, notre nature profonde, commence à se mouvoir et à se ressentir. Sva, ça veut dire soi, c'est notre essence personnelle, et Adhisthasana, ça veut dire demeure, lieu sacré. Sa couleur est orange, l'élément qui est associé, c'est l'eau, hein, c'est vraiment ce mouvement un peu mouvant dans notre corps. Le sens qui est associé, c'est le goût. Et là, on commence, on dit que l'âge de développement de ce chakra est entre 7 et 14 ans. Et donc, il est situé vraiment dans le bassin. Il est relié aux organes sexuels, au bas-ventre, au lombaire, peut-être même, vous voyez, aux ovaires ou aux testicules, mais aussi à la vessie, aux reins. C'est vraiment tous nos organes reproducteurs aussi, l'intestin au niveau, mais bas de l'intestin. Et je vais pas rentrer ici dans les symptômes en cas de trouble, mais vous comprendrez bien, évidemment, que si vous avez un problème à tous ces organes, eh ben, c'est relié à ce chakra. Ce chakra, c'est le centre de la créativité incarnée, mais c'est aussi le centre des émotions. On pense souvent aux émotions au niveau du cœur, mais en fait, vraiment, quand vous recevez une émotion, souvent, ben, vous avez le ventre qui se crispe ou au contraire qui est détendu, relâché. Et donc, c'est aussi notre relation à l'autre ici, notre relation au plaisir, notre relation au désir de la vie. C'est là où on a été porté par notre mère. Donc, à vous, après, de prendre les clés qui vous intéressent, mais en effet, savoir comment vous êtes né, comment s'est passée votre naissance, est-ce que vous avez été désiré profondément, très attendu, est-ce que vous êtes né après la perte d'un enfant, après un avortement. Toutes ces questions-là sont très importantes pour apprendre à vous connaître. Il y a des gens qui ont le bassin complètement coincé dans la pratique, juste faire des petits cercles de bassin ou faire une flexion vers l'avant, hop, le bassin, il est complètement coincé. Donc, ici, le blocage, il peut être lié à une peur de sentir, peut-être aussi à de la rigidité émotionnelle. Et si je vais un peu plus loin, ça peut être une honte du plaisir et peut-être même une peur de l'intimité, en fait. En excès dans ce chakra, vous pouvez vraiment avoir une dépendance affective ou sexuelle, une recherche compulsive de sensations. Et si vous êtes un peu en vide de cette énergie, bah, vous allez être complètement dissocié émotionnellement. Vous allez peut-être être dans une posture de repli, une sensation d'être vide, parce que dans vos blessures fondamentales, il y a peut-être eu voilà, cette sensation d'avoir été rejeté, d'avoir été peut-être abandonné, d'avoir eu une trahison, pardon, intime, une honte de notre corps ou de nos émotions. C'est important aussi de voir comment justement vos parents vous ont présenté l'intimité, votre rapport au corps. Est-ce que vous êtes extrêmement pudique ou extrêmement au contraire, le mot me vient pas, mais pas impudique, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Est-ce que ça vous gêne pas en fait de vous mettre nu devant d'autres gens? Vous êtes très à l'aise avec ça? Comment sont vos rapports aussi à vos émotions, est-ce que vous vivez pleinement vos émotions, est-ce que vous avez tendance à les refouler? Quel est votre rapport à la créativité? Est-ce que vous êtes très très dans le mental et du coup la créativité pour vous peut être difficile? On pense souvent à la créativité dans les domaines artistiques, mais n'oubliez pas qu'on peut être créatif dans notre manière d'aménager notre intérieur, dans notre manière de cuisiner, dans notre manière. Il y a plein plein de façons d'être créatif. Donc, c'est intéressant de voir ici les problèmes typiques en fait de ce chakra qui vont être donc d'une manière générale la difficulté à recevoir, à vivre du plaisir, une hyper-émotivité aussi qui peut être refoulée ou complètement débordante, un besoin d'être aimé pour exister, peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez de la maman et Des fois aussi, il peut y avoir une confusion entre un désir de lien et la fusion à l'autre. Donc, c'est intéressant toujours de se poser ces questions quand je sens mon bassin coincé, ma vessie qui excrète trop, ou au contraire, quand j'ai une infection urinaire, de se ressentir en fait le rapport à nos émotions à ce moment-là, nos rapports à notre sensualité, à notre intimité, notre rapport à la création et à son expression pour pouvoir peut-être avancer et débloquer les choses. Si je viens un peu dans le transgénérationnel et dans le karmique, ce chakra, il porte souvent des mémoires de honte du corps, de tabous autour de la sexualité, des abus ou des silences familiaux. Donc, c'est intéressant d'essayer de voir ça, peut-être de poser des questions. Si vous avez encore vos parents, des fois il y a des secrets de famille aussi, hein, souvent, beaucoup dans le bassin. Donc, ça active en fait, après tout au long de votre vie, des blessures autour autant de la féminité que la masculinité. Ça fait poser des questions aussi sur notre rôle en tant que parent, en tant que père, en tant que mère. Ça peut aussi bloquer la fertilité et ça peut aussi briser complètement notre créativité. On peut avoir eu ces idées que le plaisir c'était dangereux, que le désir il peut rendre vulnérable. Peut-être on vous a fait tourner la tête quand des gens s'embrassent à la télé. On vous a dit que la sexualité c'était sale, ou au contraire qu'il fallait, voilà, ou au contraire que vous êtes tombé dans une famille où tout le monde était hyper ouvert, se baladait à poil, disait oh mais c'est normal. Ton corps, tu dois l'assumer, etc. Et ça vous a fait rentrer en vous dans une espèce de pudeur étrange. Voilà pour ce deuxième chakra. Le chakra Manipura, c'est le troisième chakra, c'est le chakra qui est situé au niveau du plexus solaire. Manipura, c'est vraiment un mot que j'adore, hein. Mani, c'est le joyau, c'est la pierre précieuse, et Pura, c'est la cité, c'est le lieu. Donc on pourrait dire que ce chakra, c'est la cité des joyaux. C'est le centre de notre pouvoir personnel. C'est relié d'ailleurs à l'élément du feu, à la colonne couleur jaune or. C'est un beau tournesol. Et j'adore associer ce chakra à notre idée d'être souverain et souveraine de notre vie. Je parle souvent de ce chakra un peu comme si c'était, ben voilà, la cité des joyaux. J'habite pas très loin d'Aigues-Mortes. Peut-être vous êtes loin, mais Aigues-Mortes, c'est une ville fortifiée. Et il faut imaginer être le roi ou la reine au milieu de cette ville fortifiée. Et c'est quand est-ce que j'ouvre les portes, quand est-ce que je les referme, où sont mes limitations, qui je veux bien laisser rentrer, à qui je veux bien dire oui, quand est-ce que je dis non, quelles sont les limites saines pour moi-même. Manipura, on l'associe souvent à l'ego, en fait. Donc, quel est mon rapport à l'ego? Quel est mon rapport avec la confiance que j'ai en moi et en la vie? Ce chakra, on dit qu'il se développe entre 14 et 21 ans. Donc, c'est vraiment le moment de la puberté où on court dans tous les sens. Donc, c'est le moment où on s'affirme. Est-ce que j'ai eu une adolescence à pouvoir me rebeller contre mes parents? Ou au contraire, je n'avais pas le droit à la parole. Ce n'était pas possible de me rebeller parce qu'il y avait peut-être beaucoup d'autorité. Est-ce que j'ai eu le droit d'avoir les cheveux roses? Est-ce qu'au contraire, je suis restée très timide et très sage pendant ces années-là? Et du coup, l'affirmation et la confiance en soi et en la vie, comment on m'a appris à avoir confiance en moi et en la vie? Est-ce que j'ai été portée là-dedans ou pas? Les organes associés à ce chakra, c'est donc tous les organes en haut du ventre, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, l'intestin grêle. Et tous les problèmes qui peuvent être liés à cet endroit, peut-être de l'acidité, des ulcères, des troubles digestifs, des nausées, de la fatigue chronique, ressentir une faiblesse abdominale et aussi des problèmes de foie. Quand je dis problème de faiblesse abdominale, c'est je n'ai pas de solidité dans le centre de mon corps. Donc c'est très difficile d'avancer dans la vie sans cette solidité, cette force et ce feu à l'intérieur de soi. Parce que c'est vraiment le centre de la volonté personnelle, du pouvoir d'agir, de cette confiance en soi, c'est le siège du je peux, je veux, je choisis. Et quand je suis bloquée ici, je peux avoir vraiment un sentiment d'impuissance, je peux procrastiner, remettre à demain, je peux avoir carrément un effondrement de l'estime de moi-même. Si ce chakra est en excès, par contre, je vais tomber sur l'égocentrique. On en a tous connu, hein, des chefs comme ça ou des gens, moi je peux, moi je suis sûre de moi, moi je casse la baraque, moi je prends la parole, j'écrase les autres, j'ai un contrôle excessif, je suis arrogant. Peut-être je peux être carrément perfectionniste parce que je vais estimer que tout ce que je fais moi, c'est mieux que les autres. Donc les autres, bah c'est nul. Si par contre je suis en vide de cette énergie, ben, je suis carrément passif en fait. J'ai hyper peur d'échouer, j'ai hyper peur de prendre la parole, de prendre ma place, de prendre le pouvoir. Je me sens victime de ma vie, de la société. Et c'est pas de ma faute si j'y arrive pas. Donc les blessures vraiment reliées couramment à ce chakra, ça peut être des blessures qui ont été reliées à l'humiliation, aux moqueries. Peut-être au rabaissement des parents pendant l'adolescence, une autorité pareille écrasante, ou carrément en absence de reconnaissance en fait. Peut-être je suis un bosseur acharné et en fait c'est pas moi qui récolte les lauriers du travail que je fais. On me dit jamais que c'est bien ce que je fais. Donc après je peux arriver dans ces croyances du ben, je vaux rien, je dois me battre pour être vu. Si je réussis pas, c'est que je mérite pas tout simplement d'exister en fait. C'est important de me voir, d'écouter quel est mon rapport avec mon pouvoir personnel et ce feu intérieur. Est-ce que j'ai de la volonté, de l'élan? Est-ce que je sais vers où aller? Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Qu'est-ce qui me met en mouvement? Qu'est-ce que me dit mon corps quand je m'écoute vraiment? Quel est mon rapport avec cette partie de mon corps? Est-ce que j'aime mon ventre? Est-ce que je n'aime pas mon ventre physiquement? Et qu'est-ce que je fais pour que ça change? Comment je me nourris aussi, c'est important dans ce chakra. Et si je vais dans le transgénérationnel et le karmique, ce chakra, il porte vraiment les mémoires de pouvoir, de soumission, de domination dans ma lignée. Et c'est l'histoire familiale autour du travail, de la réussite, de l'autorité, de la compétition. Vous savez, moi j'avais une sœur et bon, j'en vais par mes parents, hein, c'est... Je crois que chacun fait de son mieux en fonction évidemment de l'éducation lui-même qu'il a reçue, en fonction lui-même de ses peurs. Mais mes parents avaient tendance avec ma sœur à nous comparer, à nous mettre en compétition. Et ça, voilà, ça enlève quelque chose en fait dans cette confiance en soi. Parce que peut-être l'autre est mieux sur certains points et je me sens plus fort sur d'autres, mais on ne me valorise pas forcément là-dessus. Parce que peut-être on considère dans ma famille que tout passe par l'intellect, alors que dans d'autres familles, ça va être tout passe par la force physique. Peut-être on va mettre complètement les études de côté, on va dire il faut que tu sois un bon manuel, tu sois très très fort, parce que voilà, si le papa était carreleur, c'est important pour lui que ses enfants soient forts physiquement, et peut-être que le côté intellectuel, il s'en fiche complètement. Donc il y a tout ça, toutes ces histoires dans ce chakra. Et évidemment, on continue de remonter. Et quand je remonte, j'arrive au chakra du cœur, au chakra Anahata. Le chakra du cœur, imaginez bien en fait, je fais une petite pause là, qui a une certaine logique. Si votre ancrage est mauvais, si votre relation avec vos émotions, avec votre créativité est mauvaise, si votre confiance est branlante, comment vous voulez que l'espace du cœur aille bien? Il y a une logique, tous les chakras, on doit un peu tous les travailler pour les nettoyer, les libérer, prendre conscience de nos blocages et avancer dessus. Et là, on arrive à vraiment cet espace, en fait, qui est relié pour moi vraiment à l'âme. Le chakra du cœur, c'est Anahata chakra. An, ça veut dire non, et Ahata, ça veut dire frapper, blesser. C'est le son non frappé. C'est l'espace non frappé, c'est le battement éternel de l'âme ici. C'est l'amour qui existe au-delà de toute blessure. Souvent, je fais une parenthèse, souvent dans mes pratiques de yoga, j'aime introduire ce chakra quand on va faire des pratiques d'ouverture de cœur. Je dis surtout aux gens de ne pas juger cette ouverture de cœur. Parce que si ce cœur est fermé, il y a peut-être des raisons. Il peut avoir été profondément blessé. Et du coup, s'il a été profondément blessé, quel est le réflexe? Eh bien, le dos se referme. Il vient protéger le cœur. Peut-être il met même carrément comme une armure énergétique sur ce cœur pour l'empêcher de se réouvrir parce qu'il ne veut pas revoir cette souffrance, ces blessures. Peut-être j'ai beaucoup manqué d'amour, donc pareil, je suis venue en repli sur moi et tout est OK. Et peut-être Et on va le revenir un peu plus en profondeur, donc je ne vais pas vous dire tout ça, mais peut-être mon cœur est extrêmement ouvert parce qu'on m'a dit qu'il fallait aimer tout le monde, être ouvert, être gentil avec tout le monde. Donc il y a toutes ces croyances-là dans cet espace. Donc en yoga, je cherche jamais à ce que les choses soient trop ouvertes ou trop fermées. Je cherche l'équilibre entre cette force et cette souplesse à l'intérieur de moi. C'est ma recherche perpétuelle. Donc Anahata, si je reviens vraiment dans les choses très théoriques, il est de couleur vert ou des fois on peut le trouver rose aussi. Il est rattaché à l'élément de l'air, au sens du toucher. Et la zone physique, c'est pas juste le cœur, c'est le cœur, la poitrine, le haut du dos, c'est tous les bras, les poumons, les mains, parce que il est associé à ce sens du toucher. Vous savez à quel point ça fait du bien, quelqu'un qui vous pose une main sur votre épaule, quelqu'un qui vous en serre les bras. Et du coup, voilà, ce sens du toucher, il est très prédominant aussi dans ce chakra du cœur. La zone ou les symptômes de blocage, la zone, je vous l'ai dite déjà, les symptômes de blocage, ça peut être ces sensations d'oppression thoracique, de l'essoufflement, évidemment des douleurs cardiaques, des troubles immunitaires. Mais aussi des tensions chroniques, hein, des tendinites dans les épaules, dans les coudes, dans les poignets, dans les mains, de l'arthrose, des choses comme ça peuvent venir de là aussi. C'est le centre de l'amour inconditionnel, de la compassion, et c'est surtout le centre de l'équilibre entre donner et recevoir. Je viens aussi ici dans les liens avec les relations à l'autre, dans les liens avec l'amour que j'ai de moi. Avec quel est mon rapport au pardon? Quel est mon rapport à l'ouverture aux autres, justement? Quand ça ne va pas, le premier blocage, ça va être une fermeture du cœur, un isolement, de la rancune, une peur de souffrir à nouveau. Si je suis dans l'excès, dans l'énergétique ici de mon chakra Anahata, je peux donner excessivement aux autres. Et je vais pas avoir de réciprocité. Donc en fait, ça peut être des gens hein, qui vont dire ah moi j'ai le cœur ouvert, bien sûr. En fait, ils ont le cœur ouvert, ils donnent, ils donnent, ils donnent, mais ils attendent en retour. Donc ça va être la personne qui va dire oh oui bien sûr je vais t'aider à venir faire ça. Et puis elle va attendre le SMS le soir pour dire oh merci c'était trop gentil de venir nanana parce qu'en fait elle attend de l'amour en retour elle en a pas assez pour elle-même donc elle attend l'amour en retour elle attend sinon une fusion avec l'autre elle ne sait pas mettre de limites elle peut être carrément elle ou il pardon hein, peut être carrément dans la codépendance à l'autre parce que il a peut-être tellement pas assez de valeur et d'estime d'amour de lui bah, qu'il le cherche en l'autre. Si je suis dans le vide d'énergie ici, ben qu'est-ce qui se passe? Mon cœur, il est complètement fermé, il s'est asséché. J'évite toute notion d'intimité à l'autre. J'ai beaucoup peur de toucher, de tenir une main, de qu'on me caresse. J'ai du mal. Voilà, on va me caresser. Hop, tout de suite le corps il se crispe. On me pose une main sur l'épaule et mais je te connais pas assez en fait. Tout de suite, j'ai une espèce de limite très très forte en fait. Et je peux aussi avoir cette spiritualisation sans incarnation. C'est ces gens, hein, et là je viens relier aussi à l'ego spirituel, c'est ces gens qui vont vous dire, moi j'ai tout compris, j'ai le cœur ouvert, tu peux venir, etc. Et en fait, ben, il n'y a pas d'ancrage dans cette spiritualité. Et du coup, c'est du faux, c'est du fake. Et il y en a combien des gens comme ça, bordel? Et ils sont là, ils vont vous donner des leçons, ils vont vous dire comment faire, ils vont vous dire, moi j'ai fait tout le travail, j'ai fait tout le chemin. Et en fait, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, ils ne sont pas allés au fond des choses. Et c'est les, pour moi, c'est vraiment les faux gourous, hein. Les gens hyper ouverts du cœur et qui ont l'ego, qui vous disent, moi je n'ai plus d'ego. C'est vraiment limite, mais fuyez, bordel, fuyez. Parce que si on est incarné, on a besoin de cet ego. Il est là pour nous rappeler, pour nous ramener les pieds sur terre, il est là pour nous protéger, tout comme le cœur. Il peut être ouvert, mais pas à tout le monde, parce que j'ai cette souveraineté, je sais mettre mes limites, je sais travailler mes émotions dans mon chakra du bassin, donc ça remonte dans le cœur, ça a été trié, vidé, nettoyé, et tout est OK. Donc, il peut y avoir bien sûr des blessures affectives, hein, qui sont à l'origine de l'ouverture ou de la fermeture de ce chakra. des blessures de trahison, d'abandon, de rejet, de manque d'amour, de manque d'affection, hein. L'âge de développement de chakra, c'est entre 21 ans et 28 ans, c'est un petit peu plus tard, donc c'est peut-être les premiers amours fortes, peut-être les premières ruptures, peut-être juste je suis partie de chez mes parents et j'étais bien chez eux et je me retrouve seule et qu'est-ce qui se passe? Donc on peut avoir des stratégies du coup de protection, de contrôle, de distance émotionnelle, de dire j'ai besoin de personne, on peut avoir ces croyances de si je m'ouvre à nouveau, je vais être blessée. Je peux avoir cette croyance que l'amour me rend faible, que je dois mériter pour être aimée aussi. Donc il y a toute cette réflexion à faire sur l'amour de moi, comment j'agis dans mes relations, quand est-ce que j'ai été blessée dans ce cœur, est-ce que vraiment j'ai su guérir, est-ce que j'ai su pardonner. Et puis on arrive dans la lecture transgénérationnelle et karmique de ce corps, donc comment on m'a transmis les schémas amoureux. Comment était ma famille? Est-ce qu'ils avaient le cœur ouvert ou non? Est-ce qu'ils étaient généreux ou non? Tous les sacrifices aussi que j'ai faits qui ont été non digérés, des mémoires d'amour impossibles, de trahison, de devoirs familiaux, qui ont fermé l'âme en fait. Forcément, ce chakra, j'ai pris de la place, j'ai pris du temps, parce que déjà, il est au centre de tous les chakras et que l'équilibre, il arrive là, c'est pour moi aussi ce chakra, un peu la petite voix de mon âme, en fait. Vous vous souvenez dans le premier épisode, ou sinon, allez l'écouter, je vous disais qu'on avait enfermé l'âme au fond du cœur, notre partie divine. Donc il y a tout ça derrière ce chakra. Si je continue à monter, j'arrive dans le chakra Vishuddha, le chakra de la gorge. Donc vi, ça veut dire intensité, pureté, et Shuddha, ça veut dire purifier. Donc c'est le chakra de la purification suprême. C'est le centre où les non-dits deviennent lumière, où la parole devient médecine. Alors forcément, on pense gorge, on pense tout de suite expression. Il y a aussi, relié à ce chakra, il ne faut pas l'oublier, surtout pas votre capacité d'écoute. Parce que l'expression, elle est dans les deux sens. Elle est dans ce que je verbalise, comment j'écoute l'autre. Est-ce que je suis vraiment capable, quand j'écoute l'autre, de me taire, de l'écouter vraiment, de ne pas faire un vague ping-pong avec l'autre, de « Ah oui, tu me dis ça, je rebondis dessus, ah oui, et moi aussi j'ai vécu ça », de ne pas ramener les choses avec moi, à moi, pardon, d'être dans l'écoute. La couleur de ce chakra, c'est le bleu ciel, c'est l'azur, il est relié à l'élément de l'éther, à l'espace, il est relié à l'ouïe, forcément, à l'écoute. Et il se développe un peu plus tard, entre 28 et 35 ans, quand on a maturé certaines choses, que je pense souvent aux trois passoires de Socrate, je l'utilise souvent ici dans ce chakra. Est-ce que ce que j'ai à dire est vrai? Est-ce que ce que j'ai à dire ne va pas blesser l'autre? Est-ce qu'il a un véritable intérêt? Je reviendrai vraiment dans ces trois passoires, parce que là, je crois que j'en oublie une. Mais voilà, c'est... Quand je dois dire quelque chose à l'autre, est-ce que vraiment ça montre de l'intérêt? Est-ce que je viens voir l'autre en lui disant « Ah oui, j'ai quelque chose à te dire » et « Ah, oh, tu sais pas quoi, machin, que tu connais » et voilà, et là, je vais interroger l'autre. Et pourquoi tu me racontes ça, en fait? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon pour lui? Voilà, c'est la bonté, la véracité. C'est très important. La zone physique reliée, c'est la gorge, les mâchoires, la nuque, les cordes vocales, bien sûr, les oreilles reliées à l'ouïe et les cervicales. Et si je vais un peu plus loin, le larynx, hein, le pharynx, les glandes thyroïdiennes, et voilà, et peut-être même la langue. On peut avoir des symptômes du coup qui sont reliés au maux de gorge, à la perte de voix, à la boule dans la gorge, à l'hyperthyroïdie, hypothyroïdie, des tensions cervicales, aussi les gens qui bégayent, qui font du bruit la nuit. C'est donc le centre de l'expression, de la création verbale, de l'authenticité. Et c'est en lien avec la capacité de nommer ses ressentis, à formuler ses besoins et aussi à dire sa vérité. Il y a ici vraiment tout le nettoyage de nos croyances que l'on verbalise. Vous savez, il y a des fois comme ça, on parle et on dit des phrases, on dit « Oh là là, j'ai l'impression d'entendre mon père » ou d'entendre ma mère ou d'entendre ce que j'ai entendu aux infos. Il y a tout ce nettoyage ici de ces croyances limitantes, de ces schémas comme ça qu'on répète. Il y a tout notre mutisme émotionnel aussi, notre peur de nous exprimer. Il y a aussi la voix qui peut avoir été étouffée. Et donc, en excès dans ce chakra, ça va être bah, les gens, vous savez, qui n'arrêtent pas de parler. Alors, ils n'arrêtent pas de parler, des fois pour rien dire, ils parlent vite, ils veulent prendre la parole, ils veulent qu'on les écoute, ils ont besoin de convaincre. Ils sont capables même hein, de manipuler avec la voix. Alors que en vide, au niveau de ce chakra, je vais trop intellectualiser, je vais avoir une expression très mentale, sans vibration émotionnelle, je vais être incapable, même si j'ai des choses peut-être très importantes à dire, d'assumer ma voix, d'avoir une voix constante. Ça va être très difficile pour moi, je vais peut-être avoir naturellement une toute petite voix. Alors qu'il y a des gens qui ont des grosses voix, qui prennent de la place. Donc, si je vais dans les blessures reliées à cet endroit, je peux avoir été critiquée, avoir été moquée pour ce que j'ai dit. Il peut y avoir eu aussi des secrets de famille, donc on a appris à se taire. Il peut y avoir une trahison verbale ou des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, je vais me mettre dans un silence défensif ou avoir un discours juste dans ma tête pour éviter le ressenti. Et je vais peut-être avoir aussi cette voix qui s'est adaptée pour plaire, justement. Ce sera intéressant dans un autre épisode, je vous parlerai de tous ces chakras, de tous ces centres en version Human Design qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, il y a tout ça dans la gorge. Donc, ça peut être les croyances limitantes qui disent que ma voix ne compte pas, que je vais déranger si je dis ce que je pense, qu'on ne m'écoute jamais. Et donc, c'est important d'essayer de trouver cette vérité intérieure, d'enlever tous les filtres, pour essayer aussi d'écouter sa voix, la vraie. Vous savez, il y a des fois comme ça, on s'écoute sur des vidéos où on entend sa voix même chanter et on se reconnaît pas, on dit « Oh, mais je parle pas comme ça, mais je chante pas comme ça. » Et j'ai envie de vous dire, moi, j'ai fait un énorme travail sur des années et aujourd'hui, que je chante, que là j'enregistre mon podcast ou autre, c'est ma voix que j'entends. Et ça c'est formidable, ça veut dire, alors j'ai pas fini de travailler, hein, je vais travailler encore toute cette vie et certainement la vie d'après encore, mais ça veut dire que je commence à vraiment exprimer ma vérité, que j'ai jamais l'impression de prendre le costume de quelqu'un d'autre, ou la voix de quelqu'un d'autre, ou les mots de quelqu'un d'autre, je vais pas me cacher derrière les pensées des autres, je vais savoir verbaliser vraiment mon opinion. Quitte à ne pas plaire, c'est pas grave. Je vais être aussi capable maintenant, je pense, de véritablement écouter, d'avoir une capacité d'écoute sans jugement, sans ramener toujours à moi. Si je partage des expériences personnelles, c'est plus pour que l'autre se sente moins seul, qu'il se dise « je suis pas tout seul à avoir vécu ça, et c'est ok, et on peut s'en sortir, on peut avancer ». Donc c'est tous ces rapports avec mon expression authentique en fait, est-ce que je me sens libre de m'exprimer comme je suis vraiment et pareil, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je prends la parole? Est-ce que ma gorge elle se serre? Est-ce que c'est difficile? C'est tout ça qui est important. Est-ce que je pouvais dans ma famille m'exprimer? Si on arrive dans le transgénérationnel et, le karmique, pardon, c'est les secrets générationnels ici, les mensonges répétés, codés. Est-ce qu'il y a eu des non-dits dans cette famille? Est-ce qu'il y a eu de l'abus de pouvoir par la parole ou des silences imposés? Ça peut être des vœux inconscients, hein, je ne parlerai plus jamais. Je dois me taire pour être en sécurité. Il y a tout ça dans ce chakra. Et je continue mon voyage vers Ajna Chakra. Il y en a qui disent Agya, d'autres Ajna. Prononcez-le comme vous voulez. C'est le chakra du troisième œil. C'est le chakra qui est situé entre les sourcils. Donc A, ça veut dire absence, et Gnya, ça veut dire savoir ordinaire, connaissance conditionnée. Donc Ajna Chakra, c'est au-delà du savoir, c'est le lieu de la connaissance directe, de la perception pure, c'est le lieu de l'œil, c'est le lieu de l'âme, c'est aussi le lieu de l'imaginaire. On a un pouvoir extraordinaire en tant qu'humain de pouvoir fermer les yeux et d'avoir un écran mental qui s'ouvre. J'ai fait de la sophrologie, hein, j'ai mon diplôme que je n'utilise pas, mais bon, j'ai trouvé ça formidable en sophrologie, cette histoire de fermer les yeux et de pouvoir trouver un lieu ressource dans son esprit. Je ferai peut-être un épisode là-dessus un jour, mais moi j'ai eu d'énormes crises d'anxiété, et c'est pour ça que je suis arrivée à la sophrologie, parce que J'avais envie d'arriver à contrôler ces crises d'anxiété, à comprendre d'où elles venaient. Et souvent, en fait, ces crises d'anxiété, j'ai appris à les transmuter en m'enfermant dans des toilettes. Désolée pour le côté très glamour, mais c'est toujours le lieu où on est hyper peinard, les toilettes. N'importe où on va, on peut trouver des toilettes, s'enfermer dedans. Donc j'avais mon espèce de kit toilette avec toujours un espèce de tissu pour pouvoir m'asseoir sur le dessus des toilettes tranquille. Et quand j'avais cette crise d'anxiété qui arrivait, je m'enfermais dans des toilettes et je me visualisais dans ce qu'on appelle un lieu ressource, un endroit où j'étais bien. Alors ça peut être la maison de votre enfance, ça peut être peu importe, peut-être un lieu imaginaire. Moi, c'était un lieu imaginaire. J'étais un peu comme sur une planète flottante dans le ciel et c'était vraiment mon île. Et je laissais rentrer les gens que je voulais voir, je ne laissais pas rentrer les gens que je voulais pas voir. Des fois même, je m'étais imaginé une petite maison toute en bois, un peu tarabiscotée, avec un fauteuil, toujours du thé, des bonnes odeurs, d'intérieur de maison chaleureux, la bibliothèque, le fauteuil, un fauteuil en face de moi, comme ça même je laissais parfois rentrer ma grand-mère ou des gens qui étaient importants pour moi, qui étaient partis, avec qui voilà, j'étais rassurée où j'étais bien. Et en fait, je fermais les yeux et du moment où j'arrivais dans ce lieu, ben, j'avais peut-être deux larmes qui coulaient, mais ça y est, j'étais bien. Donc, ce chakra, il est relié à ça aussi, à ce pouvoir de l'imaginaire. Vous avez un projet, une envie, hop, vous fermez les yeux et hop, vous pouvez vous retrouver à la mer ou vous pouvez vous retrouver entrepreneur qui réussit. Donc, c'est vraiment très, très important. La couleur de ce chakra, si je reviens vraiment à la théorie pure, est l'indigo, le bleu nuit, l'élément et la lumière, l'intuition. Le sens associé, ben, il n'y en a pas vraiment. Ça commence à être la perception extrasensorielle au-delà des cinq sens. Il se développe vraiment entre 35 et 42 ans. C'est pas tout de suite. Il faut avoir cette expérience de vie, ce recul, peut-être un peu plus de temps pour soi. Il est donc relié au centre du front, à la glande pituitaire, à la base du crâne, aux tempes et aussi aux yeux, au sinus, au lobe frontaux, nerf optique. Il est en cas de blocage, on peut avoir des migraines, des maux de tête, des problèmes de vue, de l'insomnie, de la confusion mentale, une impression de brouillard cérébral et même de la tension dans les tempes ou le front. C'est le centre du discernement, de la vision claire, de l'intuition mentale. C'est vraiment le siège de la conscience qui observe. Et quand on est bloqué ici, ben on arrive dans de la confusion, des doutes permanents, de la surmentalisation, peut-être aussi même de la difficulté à faire des choix. En excès, on a de l'excès de rationalisation, un mental hyperactif, un besoin de tout comprendre, de tout décortiquer. C'est les gens qui vont avoir toujours des références, qui vont vous citer des livres. Et oui, mais tu dis ça, mais est-ce que tu as la référence? Est-ce que tu as lu des articles, des thèses? Est-ce que tu es en gros assez intelligent avec ton cerveau et non pas avec ton âme pour comprendre les choses et m'avancer des arguments? Alors que dans le vide, on peut être dans les fantasmes, les illusions spirituelles, presque une dissociation. C'est les gens, ils vont être, ils peuvent être toujours en fait dans le rêve de leur vie, passer à côté de leur vie, être à côté de leur pompe. C'est les gens qui vont, ils vont regarder les nuages, ils vont voir des signes peut-être partout. Et voilà, c'est peut-être un peu de la fuite spirituelle, souvent associée avec le chakra qui va suivre. Hein. Mais ils sont là, mais ils sont plus là en fait. Ils ne veulent plus voir la vie et voir la réalité de la vie et la beauté de la difficulté aussi des fois que les épreuves de la vie peuvent nous amener. Et du coup, ils fuient. Ils fuient, ils fuient, ils fuient dans ce monde fantasmatique. C'est un peu comme s'ils habitaient à Disneyland tout le temps. Quand je vais dans les blessures, je peux avoir dans ce chakra eu des manipulations mentales, des manques de repères, des trahisons intellectuelles, de l'invalidation aussi, de l'intuition, qu'on me dise mais n'importe quoi, ce que tu dis quand tu dis je sens ça, hein, parce que c'est ça ici, c'est je sens, je ressens, voilà, je ressens ça, il va se passer ça, et on vous dit mais ça va pas, reviens sur terre, quoi. Donc, les croyances limitantes, ça peut être dans les excès. Mon intuition est fausse, je dois comprendre pour contrôler. Je suis perdue s'il n'y a pas de logique. On peut refuser complètement l'inconnu, on peut vouloir tout expliquer, vivre dans le mental plutôt que dans le corps aussi. Donc, c'est important de se poser la question, quel est mon rapport avec mon intuition? Est-ce que j'y fais confiance ou pas? Est-ce que je suis claire dans mes décisions? Parce que c'est là aussi que je vais quand même commencer à faire ce tri dans mon mental. Est-ce que je suis capable justement de méditer, de vider ma tête ou pas? C'est important. Dans la lecture transgénérationnelle et karmique de ce chakra, je peux avoir hérité de systèmes de pensée rigides, d'interdits intellectuels ou mystiques. On a pu me dire que tout ça, c'était n'importe quoi. On peut aussi avoir eu des mémoires de persécution dans l'intuition ou dans le savoir caché. Et puis aussi, on peut être juste né dans une famille qui valorisait le mental, la performance intellectuelle, au détriment du ressenti. Et on termine par le dernier chakra, et c'est celui que je vais le moins vous développer parce que pour moi, le chakra coronal, le chakra couronne, Sahasrara, qui veut dire 1000, c'est le lotus aux 1000 pétales, c'est là où tout s'ouvre, c'est le symbole de l'éveil, de l'unité, de l'infini. C'est vraiment la porte qui vous relie au ciel, le point de rencontre entre vous et le tout. C'est vraiment très personnel. Pour moi, ici, c'est relié à toutes mes croyances. Qu'est-ce qui me guide, en quoi j'ai foi dans la vie. Donc c'est très personnel et dans mes retraites de yoga, dans mes cours, c'est quelque chose que je laisse ouvert. Moi, mon studio de yoga actuellement s'appelle Bija Yoga. Bija, ça veut dire graine. J'aime planter des graines pour qu'ici vous preniez et que vous laissiez éclore la fleur qui vous convient. La couleur de ce chakra, c'est le violet. Ou aussi le blanc un peu doré, plein de couleurs, un peu comme celui de l'arc-en-ciel. L'élément, là, on est au-delà des éléments, on est vraiment dans le subtil, dans l'éther. Donc c'est associé à la conscience pure, il n'y a pas de sens physique relié à ça. L'âge de développement, c'est plutôt 42 ans et même au-delà, ou jamais. Si votre vie, et ben toute votre vie, vous restez fermé, ça peut rester fermé tout le temps. Donc il est situé vraiment au sommet du crâne, hein, il est relié au cerveau, à la glande pinéale, et ou l'épiphyse, on dit aussi. Donc ici, vraiment, si c'est bloqué, on peut avoir deux choses, un vide spirituel, un matérialisme extrême. On peut avoir une perte de sens dans la vie. En fait, quand on n'a plus foi en rien, et là je pense à quelqu'un qui m'est proche, qui me dit, mais moi je suis fondamentalement athée, j'aimerais bien être comme toi, croire, parce que la vie, quand on croit en rien, mais waouh, qu'est-ce qu'elle peut être difficile, j'imagine. Alors, moi je dis, hein, j'affirme maintenant que je crois en la réincarnation, au karma, au sens des épreuves qui nous font évoluer. Et que j'essaie d'accueillir presque comme des cadeaux, même si c'est difficile, comme des occasions de grandir. Et je me dis, mais si on voit pas ça comme ça, qu'est-ce que c'est difficile? Et en même temps, ben, imaginez, je meurs et il se passe rien, je me réincarne pas. Eh ben, j'ai envie de vous dire, tant pis, ça m'aura donné un sens à ma vie, de la légèreté, de la beauté et du soutien, en fait, dans les périodes difficiles. Attention ici, du coup, quand vous avez de la confusion, de l'insomnie chronique, des crises d'angoisse, l'impression d'être coupé comme ça du ciel, ou même de la dépression profonde, ben ça veut dire que ce chakra, il y a un truc qui ne va pas. Quand il est dans les excès, alors là, voilà, on revient hein, sur le gourou, les gens qui fuient complètement dans le spirituel, qui se déconnectent de leur corps, qui rejettent presque leur incarnation, en fait. C'est des gens qui pourraient très facilement, oui, finir dans des sectes, en fait, parce que la vie ne leur convient pas. Donc ils sont dans cette fuite. Si par contre je suis en manque d'énergie ici, eh ben je vais avoir une illusion d'éveil, peut-être une fausse lumière, des bulles spirituelles, et j'arrive du coup à nouveau dans ces faux gourous, hein, où vraiment j'arrive aussi, ben, comme on l'évoquait juste avant, avec les gens qui n'ont aucune croyance. Voilà, ça peut être ça et ça. Donc il peut y avoir eu un rejet spirituel à un moment de sa vie, hein. Peut-être je croyais en des choses, et puis j'ai eu une grosse épreuve, et j'ai dit plus jamais je croirai en Dieu, en rien, s'il y a un Dieu, c'est pas possible. Donc il peut y avoir ce sentiment presque d'abandon, en fait, de cosmique, quoi, d'abandon de ceux en quels on croyait. Et du coup, il va y avoir peut-être aussi une quête infinie, mais pas enracinée, donc... Il peut y avoir aussi ici les gens, hein, je reviens là-dessus, qui vont aller de formation en formation, qui vont écouter le dernier qui a parlé, qui a l'air de croire en lui. Ah bah c'est le dernier truc spirituel, ok, c'est pour moi, c'est pour moi. Et je cours comme ça après quelque chose qui n'a pas de sens au final toute ma vie. Et je passe à côté de l'essentiel. Donc Ici, je peux avoir eu ces croyances limitantes de je suis seule dans l'univers, je dois souffrir aussi pour être éveillée, ou je ne suis pas digne, tout simplement, d'être guidée, je ne vaux pas grand-chose. Donc, c'est mon rapport au spirituel. Est-ce que ma spiritualité, elle est incarnée ou pas? Est-ce qu'elle est libre, douloureuse ou culpabilisante, ou elle m'oblige à faire des choses? Est-ce que je me sens reliée vraiment à quelque chose de plus grand? Et puis même, d'une manière générale, est-ce que j'ai confiance en la vie? Ce que je dis à mes élèves, vous n'avez pas besoin de croire forcément en un dieu. On peut croire en un dieu, on peut croire en une déité indienne, en Ganesh, on peut croire en un élément, en le soleil, on peut croire en la nature, on peut croire à plein plein de choses en fait qui vont à la puissance du moment présent et qui va m'amener de la confiance dans la vie. Mais c'est ça, c'est comment je suis confiante et comment j'ai foi dans cette vie. Et du coup, si je reviens sur le transgénérationnel, le karmique, hein, pour essayer de faire le pendant à chaque fois, là, j'arrive dans l'héritage de rupture spirituelle transgénérationnelle, le rejet de la foi, peut-être de la culpabilité religieuse ou de l'interdit mystique. Je peux avoir aussi ici des mémoires de persécution mystique, hein. On pense tout de suite à la sorcière brûlée sur le bûcher, mais pourquoi pas? Des vœux d'isolement ou des peurs de l'éveil ou de la folie, en fait. Si je vais spirituel, on va peut-être me dire, je suis complètement folle. Moi, c'est une croyance que j'ai eue très, très longtemps. Et aujourd'hui, je me sens tellement spirituelle et ancrée que je ne l'ai plus, en fait. Il peut y avoir eu des conditionnements, vous voyez, autour du sacré, c'est dangereux, c'est pas pour toi, c'est pas concret. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez déjà beaucoup, beaucoup de choses dans cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai fait cet épisode notamment déjà pour mes élèves. Même si je répète un peu toutes ces choses à chaque fois, je donne un peu, je sème comme ça des graines. Si vous voulez aller plus loin, je peux peut-être vous envoyer comme ça un petit PDF sur tout ce que j'ai fait ici. Je suis vraiment ravie en fait, même si pour le moment j'ai peu d'écoute de ce podcast, je sais que c'est juste pour moi et j'espère que les gens qui l'écoutent en fait seront juste un peu plus éveillés à eux-mêmes, un peu mieux. Et je ferai un épisode prochainement sur ben, les centres comme ça qui sont reliés en fait en human design. Alors il y a des centres qui sont complètement reliés avec la vision du yoga, il y a des centres pas du tout. Et il y a même des centres en plus, et c'est très intéressant aussi ces centres en plus. Donc voilà, je vous invite vraiment, si le cœur vous en dit, à partager cet épisode, à me commenter, à m'envoyer un petit DM, et puis voilà, à le faire circuler et à laisser l'énergie grandir en vous et autour de vous. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre écoute et je vous dis à très très bientôt sur des tapis de yoga, en retraite, peut-être lors d'une analyse de design humain ou de clé génétique, ou dans tout autre moment de la vie où je pourrais vous croiser avec plaisir et bonheur. À très bientôt.